Maintenant, un bon boîte de casse.
Maintenant, un bon boîte de casse.
Voilà, donc c'était l'interview de la nouvelle boîte de Ludicali qui s'appelle Sarena. Et j'ai eu la chance de tomber en plus sur l'auteur qui est Christophe Bollinger, qui est un petit auteur qui démarre. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour.
Alors Sarena, c'est une des deux productions qui est présentée au Salon de Essen, puisqu'on va d'abord évidemment parler de ça, mais il y en a aussi un autre qui s'appelle Archipel.
Exactement. Sarena, en fait, le truc, c'est que j'ai eu la première boîte dans les mains hier soir en arrivant.
Ah, et donc, très content.
Ah oui, oui, super content du résultat. Les pions sont bien épais, enfin... souvent, il y a eu des fois par le passé où avec des éditeurs, j'étais un peu déçu par rapport à mes protos. Je m'emmerde bien le cul à bien les réaliser. Là, pour Sarena, je dois avouer que j'étais super content. C'est vachement mieux que mon proto. Donc voilà.
En plus, donc ça, c'est parfait.
Et le premier testeur qui attendait de pied ferme parce qu'il était intrigué par le truc, c'était Chris Byrne.
Ah bah ça va.
Qui fait des jeux abstraits. Oui. Et j'ai ouvert la boîte devant lui. C'est lui qui a fait la première partie avec Yves Renoux de Swiss Game.
Okay. Oui, okay.
Et il a adoré, donc c'était bon signe.
Oui, ça c'est pas mal, puisque le projet GIF quand même c'est une référence au niveau ludique. Donc c'est un jeu abstrait, si Chris Byrne se présentait et que ça avait l'intéressé, c'est que c'était fondamentalement un jeu abstrait. Allons-y, tu vois des pions et c'est le drapeau belge en fait que tu as mis sur le jeu.
Oui, il y a une couleur en plus quand même.
Oui, bon, ça c'est la neutralité.
Il y a les trois couleurs du drapeau belge, effectivement, comme tu viens de le remarquer. Alors, c'est pas purement un jeu abstrait. C'est vrai que c'est un jeu abstrait par la thématique, entre guillemets, mais c'est un jeu plutôt familial. Et pour un jeu abstrait, il a un truc assez particulier, c'est qu'il a du bluff dedans. Et les jeux abstraits, en général, on est en contrôle de tout. Pourquoi je dis familial ? Parce qu'à deux, il se joue de 2 à 4 déjà. Les jeux abstraits qui se jouent de 2 à 4, il n'y en a pas des tonnes quand même, quoi qu'il y en a. À deux, c'est un vrai duel. Et là, oui, il va contenter les stratèges, les mecs qui aiment bien se péter le cerveau. Il y a quand même la dose de bluff, c'est à deux qu'elle est la plus importante. Donc le bluff est très important. Et il y a une toute petite pointe de hasard au début, mais sur laquelle, avec le bluff, tu peux justement rattraper le coup. Donc les jeux abstraits n'ont pas du tout de hasard. Lui, il en a un petit peu, légèrement. Et il a du bluff et il peut jouer 2 à 4. Et plus tu es élevé en nombre de joueurs à 3 à 4, plus tu tombes dans un jeu plutôt familial, bon enfant, où chacun essaie de tirer son épingle du jeu, mais où tu as de moins en moins de contrôle et où le bluff disparaît. Donc idéal à jouer en famille avec des enfants, on a mis 8 ans, parce que les règles sont ultra simples, je pourrais te les expliquer même sans support visuel. Enfin quand même avec le support visuel c'est mieux. Donc familial à 3-4 et à 2, un vrai jeu qui contentera les stratèges avec du bluff dedans.
Ok, donc on a des palets ronds en bois de couleur noir, jaune, rouge et blanc et on voit sur la boîte qu'on va les empiler. Mais comment est-ce que ça se passe ?
Alors déjà les palets, c'est pas simplement des palets, c'est des doubles palets en fait. C'est deux pions, je vais t'en montrer.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est deux pions collés en fait. Donc à chaque fois il y a une bicouleur, il n'y a jamais la même couleur. Et donc, il y a toutes les combinaisons en un certain nombre de pions des quatre couleurs existantes. Donc ça, c'est mis au hasard, complètement en vrac au départ sur le plateau, un pion par case. Ensuite, à ton tour, tu vas empiler des pions, suivre les lignes qu'il y a sur le plateau et venir faire des empilages, la pile maximum étant 4. Tu ne peux jamais dépasser 4. Sur ces cases, tu vois qu'il y a des cases avec des trous, avec du sable dedans. Quand cette case trouée se vide, plus personne ne pourra jamais aller dedans, elle restera vide jusqu'à la fin du jeu. C'est comme ça que le jeu s'éclaircit au fur et à mesure. Par contre, les cases où il y a ces doubles flèches, c'est un peu un bulle de recyclage, quand une pile va atterrir sur cette case si elle est vide, elle va flipper, elle va tourner, elle va se réverser.
Complètement.
Complètement. Si c'est un pion seul, il va se changer de face. Si c'est une pile de 3 ou de 4, elle va s'inverser, donc la couleur du dessus va changer. Au tout début de la partie, on tire tous un petit pion secret avec une couleur secrète dessous, qu'on garde secret jusqu'à la fin du jeu. Ton but est qu'à la fin du jeu, il y ait au maximum ta couleur visible en haut des piles, sur le sommet. Parce que quand le jeu va se finir, et le jeu se finit quand plus rien peut bouger, on va tous révéler notre couleur et on va récupérer toutes les piles avec notre pion au-dessus, pile ou pion tout seul. Et là, on compte les pions. Et celui qui en a le plus a gagné. Donc une pile de 4 me fera 4 points. Voilà, tu connais toutes les règles.
Ok, mais Christophe Bollinger, c'est l'auteur, c'est toi. On n'a pas l'habitude de te voir sur ce genre de choses-là.
Bah en fait, tu sais, moi je crée des jeux vraiment dans tous les styles. Enfant, j'avais fait Chat-Perché, tout ça. Et les jeux abstraits, c'est même parmi les premiers jeux que j'ai commencé à créer vers 12-13 ans. Sauf qu'un jeu abstrait, pour moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à créer parce que c'est hyper épuré, il faut que ça soit addictif, que ça se joue vite, ça s'explique vite et qu'il n'y a pas de thème et tout ça. Et des jeux abstraits, j'ai dû en créer entre 8 et 10, on va dire, dans ma vie. Un qui aurait pu sortir mais qui coûtait trop cher à la prod. Et celui-là, qui était le petit dernier, il a un an, maintenant un peu plus, et qui était vraiment addictif quand on y jouait. Et voilà, quoi. Donc, comme Ludicali, notre credo, comme tu peux le voir sur les pubs qui est autour de la boîte, c'est que d'un jeu abstrait, on passe à ça, ou à ça.
Donc, sur les bords de la boîte, après avoir enlevé le couvercle, on voit Earth Reborn, Différence et Dungeon Twister. Non
voilà. Donc il nous manque plus qu'un jeu pour les tout-petits, un jeu pour les retraités, un Scrabble-like, ouais, on va dire, et là on montre vraiment qu'on n'a pas de gamme. Ouais. Un TCG, hein, un collectible card game au passage, ouais, ouais, non, on n'en est pas là. Mais grosso modo, comme on l'a mis justement sur le quatrième côté de la boîte où on n'a pas de quatrième jeu encore, ouais, nous faisons les jeux que nous aimons jouer, ouais, et on ne veut pas entendre parler de gamme ou d'histoire. Quand on fait un jeu, c'est parce que il a quelque chose dedans, de différent de tous les autres, il amène un petit plus, il est original, et là, le fait que ça soit du pion, de la thématique, du jeu de rôle, du kart, rien à voir, on s'en fiche.
Okay. Mais d'où est née l'idée de Sarena ?
Alors là, déjà, moi, pour moi, un jeu abstrait, impossible de dire. Un jeu abstrait, tu pars. Pour moi, un jeu abstrait, tu pars en disant, tiens, aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je pourrais imaginer comme nouvelle mécanique qui n'a pas été faite dans un jeu abstrait, tout ça et tout. Donc je sais pas, j'ai testé du twist avec Dungeon Twister, là je teste du flip, avec des pions, ça a dû repartir de là.
Ok, mais oui, ça, voilà, question idiote, réponse, pas dire idiote, mais en tout cas...
Denis.
C'est ça, quoi. Ok, donc ça c'est la nouveauté qui est sortie.
Ouais. C'est qu'on le développe aussi sur iPad, c'est ça. Et là on n'a pas fini, il n'est pas esthétiquement présentable, en fait, pas éditable. Présentable si on pourrait le jouer. Par contre, on travaille à fond sur l'IA et l'IA me gagne pas mal, quoi, genre 2 fois sur 3 en ce moment.
Ah ouais,
donc on travaille sur une bonne IA et je pense que dans les 2-3 mois qui viennent, on aura une version sur iPad de Sarena qui pourra jouer de 1 à 4. Ouais. Tu pourras jouer contre l'IA ou tu pourras jouer contre 3 IA si tu veux ou à 4 humains autour de l'iPad en cachant notre couleur et un peu comme tu joues à Small World, quoi, voilà, autour de l'iPad.
Bien, super. Donc ça c'est sorti. Par contre, Archipel, on est encore...
Il est en 6 langues, 7 langues.
7 langues.
Il est en 7 langues parce que les règles sont tellement courtes. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Dont allemand et belge, donc, donc français.
Et néerlandais.
Il n'y a pas en flamand, en néerlandais.
Non, ouais. Ça c'est pas néerlandais.
Mais c'est le fal flamand,
ouais, ouais.
Ça, c'est le russe. Et le néerlandais, tu l'as là, oui.
Oui, voilà. Donc on a les deux. Ouais. Ok, donc ça c'est évidemment Sarena. Maintenant, il y a un autre jeu que je vois derrière toi qui est Archipel, mais c'est encore un prototype.
Oui. Alors Archipel, c'est un jeu que Luigi Cali va faire, c'est une certitude, vraisemblablement pour 2012. Et j'ai commencé à le présenter à Trick Track, à l'Asmodée, ou à Octogone à Lyon. Et là, donc, on l'a pris, comme il y a une grosse demande et les joueurs aiment beaucoup, quoi, je l'ai ramené ici. Donc Archipel, c'est du gros jeu, c'est du gros jeu de joueurs. Bon, une fois de plus, là, tu vas me dire, mais on ne savait pas que tu faisais des jeux à l'allemande, Christophe. Ben, je joue aussi beaucoup de jeux à l'allemande. Et donc c'est un jeu à l'allemande mais pas totalement. À l'allemande dans le sens où tu as des ressources, où tu vas avoir des hexagones, tu vas explorer, tu vas avoir des personnages, des progrès, voilà, tu vas avoir de la gestion et de l'optimisation. Un jeu collaboratif mais semi-collaboratif parce qu'en fait on colonise un archipel qu'on va découvrir, qu'on va exploiter, coloniser et il ne faut pas trop qu'on le martyrise, c'est-à-dire que les autochtones, il faut qu'on les respecte, qu'on leur donne les ressources dont ils ont besoin, etc. Le continent européen qui nous a envoyé ici, ça se passe au 16e, 17e siècle, qui nous a envoyé ici pour, avec certaines missions, de ramener des ressources et tout, il va falloir qu'on les contente quand ils nous demandent du bois, des fruits exotiques et tout pour le roi Louis XIV, que sais-je. Donc, il faut qu'on respecte un peu tout ça. Et si on ne le fait pas, il va y avoir de plus en plus de révoltés sur l'archipel et que si ces révoltés dépassent le nombre d'actifs qu'on est, on va avoir une guerre d'indépendance et comme en Algérie, on va devoir quitter l'archipel et on a tous perdu. Par contre, on a tous une carte objectif secret et dans laquelle aussi il y a la fin du jeu. Donc on ne sait jamais quand le jeu va vraiment se finir. On a une idée parce qu'on a une des conditions, mais ça se trouve une des autres conditions qu'un joueur a en main va finir le jeu avant nous. Donc on ne peut pas faire du king-making en disant tiens, j'ai là, parce qu'on ne sait pas quand ça va se finir. Ensuite, on ne sait pas aussi si autour de la table, il n'y a pas un indépendantiste parmi les objectifs secrets. Un mec qui veut la guerre d'indépendance. Et que si elle arrive, il gagne parce que lui, il aimait l'archipel et il s'est marié avec une vaïnée et il a envie de rester là. Ensuite, tu as aussi à l'inverse un pacifiste qui, lui, veut qu'à la fin, il y ait le plus grand écart possible entre les révoltés, qu'il n'y ait presque pas de révoltés, quoi. Et lui, il gagne plein de points s'il arrive à justifier à la fin qu'il y a la paix sur l'archipel.
Ça, ce sont des rôles cachés.
Et tous ces rôles mélangés font que chaque partie génère une sorte de scénario qui est vraiment différente. Donc quelque part, le jeu à ce jour, avec le recul et l'expérience des joueurs que j'ai, je le classerais quelque part entre un jeu à l'allemande et un Earthreborn. Dans le sens où Earthreborn génère des scénarios, raconte des histoires, et là, tous les gens qui passent, ils me disent c'est fou comme tout, les chômeurs, les autochtones, la révolte, la dictature, les trucs, tout est imbriqué et colle au thème à 200% et te plonge dans l'histoire.
C'est ce que j'allais te dire, mais comment mets-tu tout ça en place? Parce que tu parles de demande de l'Europe, tu parles de révolution, tu parles d'indépendance, comment est-ce qu'on met ça en place?
Bah déjà, tu as une boîte qui va être chargée de matos, vu ce qu'on envoie et ce que les gens disent ici, à peu près un équivalent d'Agricola. Donc ce sera une boîte entre
1,7 kg,
hein, voilà. Il y a beaucoup de matos. On tient, quand on s'étale, j'ai fait des expériences, on tient moins de place qu'Agricola ou à peu près la même place, donc ça c'est correct. Et ensuite, tu as même une durée de jeu réglable dedans. C'est-à-dire tu peux décider de faire une partie courte, partie longue, ou partie moyenne ou partie longue. Et tu as 3 sets de cartes objectifs, de 10 cartes chacun, qui vont faire que ta partie va faire, on va dire, à 3-4 joueurs, 1 heure et demie, ou 2 heures, ou, si tu prends la partie longue, comme un vieux civilisation à l'ancienne, 3-4 heures, voire la nuit, si tu as des mecs qui partent en analysis, paralysis, à réfléchir comme des tarés. Donc tout est réglable, de 1 à 5 joueurs, les scénarios et tout vont faire que ça va tout le temps changer les objectifs, et ta durée est réglable aussi.
Qu'est-ce qui... Donc au niveau du matériel, on a des tuiles hexagonales, puisqu'on en fait, quoi, ça démarre comment en fait? Il n'y a rien sur la table au départ?
On démarre dans le jeu normal, on démarre en pleine mer, et on va découvrir au fur et à mesure l'archipel, on va explorer et faire grandir la carte avec des hexagones. Et dans ces hexagones, tu as de la plaine, des montagnes, de la flotte, des estuaires, etc. Des fjords, un peu tout ça. Et tu as des ressources dessus. Et c'est ces ressources qu'on va aller chercher avec nos citoyens, etc. Tu as ensuite des cartes. Il y a 48 cartes qui sont des cartes progrès et des cartes personnages que tu vas pouvoir acheter à chaque tour et qui vont t'aider à faire certaines choses, un peu des boosters. Mais là, le truc rigolo, c'est que ces personnages et ces progrès que tu as, les autres peuvent te payer pour louer les services de ces personnages ou utiliser ces progrès que tu maîtrises. Et donc, ils vont engager ta carte. Certes, tu n'en auras pas l'utilisation ce tour-ci, mais ils vont te payer pour ça. C'est pas mal. D'accord. Ensuite, tu as bien sûr plein de cubes ressources, des tableaux pour le marché extérieur, marché intérieur, où on va mettre les ressources et les prix de vente, un tableau de chômeurs, un tableau de population active et de révoltés. Et puis, un méga thermoformage qui est la spécialité de Ludicali, mais qui est là est vraiment vital. Parce que
on se tire au dur.
Voilà, maintenant tu vois, je sais faire du thermoformage en proto maintenant.
C'est très impressionnant.
Pour bien voir qu'on arrivera bien à le faire au final. Donc tous les éléments vont rentrer et certains vont rester dans le thermoformage parce qu'il aide durant le gameplay. Et il aide en gros, sans le thermoformage, quand je mettais une partie en place, je mettais, si j'étais bien enfant, je mettais entre 5 et 10 minutes, on va dire.
De placement.
Avec le thermo, pour mettre en place, je mets même pas 2 minutes.
Ouais, parce que tout est déjà dispo.
Tout est déjà trié en place, tout est là. Si tu as bien rangé ton jeu à la fin de ta partie d'avant, quand tu veux en démarrer une, en 2-3 minutes, c'est en place.
Ouais, mais tu vois, là, je vais pas te dire qu'on ne savait pas que tu faisais des jeux à l'allemande, mais là, on te reconnaît.
Oui, ah, je suis un optimisateur dans tous les sens. Ouais. Et donc voilà, 3 sets de cartes objectifs, 1 set de cartes tendance. Ouais. Plein de meeples et de bateaux par joueur jusqu'à 5 joueurs, donc tu vas avoir une bonne centaine plus même, entre 100 et 120 pièces de bois. Voilà, et des jetons explorateurs, des aides de jeu pour les objectifs, tu as des résumés pour que tu saches ce que les autres ils sont en train d'essayer de faire. Ah oui, dans le jeu, tu as aussi une sorte de partie enquête. Ben parce qu'en fait, tu es censé savoir comment on se classe sur les objectifs des uns et des autres. Tu es censé essayer de savoir ce que les autres essayent de faire. Quelle est la mission que leur a donné leur pays en Europe. Parce que Si tu te classes sur les objectifs qu'ils ont, tu vas gagner des points aussi à la fin. Donc tu as une partie. Alors, négociation à outrance dans tous les sens, magouille, puterie, coup de backstab dans le dos, tu as tout ça. Énormément de négoces, énormément de tchatch, exploration, optimisation, ressources, etc. Côté un peu thème fort, aventure, hein, et même un peu de détective. Tu as un peu tout ça mélangé dans un même jeu, qui est durée réglable.
Est-ce qu'on a un peu... Est-ce qu'on n'a pas un peu peur que ce soit trop chaotique d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'y a pas trop dedans? Tu vois ce que je dis?
Ah non, non, tout s'intègre et tous les éléments s'enchaînent et s'imbriquent. Chaotique, non, vraiment pas. Et même quel que soit le nombre de joueurs. Parce qu'il y a des jeux, par exemple, comme Sarena, pour te dire, moi ce que je sens, c'est à 2, c'est un total contrôle. À 3, c'est un peu plus chaotique. À 4, c'est chaotique. Là, non. Et ce qui te compte, c'est que le jeu est aussi intéressant à 2 qu'à 3, qu'à 4, qu'à 5. Quoi. Marche pareil quoi.
Okay. On sent clairement l'influence d'un certain nombre d'années au niveau de jeu à l'allemand, puis on peut pas le nier, on retrouve des mécaniques qu'on retrouve dans d'autres jeux, mais évidemment il y a quelque chose de neuf là-dedans. Comment fais-tu la part des choses dans ton processus de création pour se dire bon ça on peut pas s'empêcher, ça ressemble à tel jeu, mais ça c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est la nouvelle chose qui va faire que ça relance un peu cette mécanique là
En fait je marche à l'envers, en fait je pars du thème, j'imagine tous mes mécaniques de jeu, comment je vois ça, et en même temps que tu imagines les mécaniques, tu imagines les composants. Et à chaque principe de la vie que je veux retranscrire en mécanique de jeu, là j'imagine la mécanique qui va, mais surtout mon premier critère c'est de dire, tiens, pour ce fait-là que je veux traduire, ce type d'élément, ou ce phénomène plutôt on va dire, que je veux traduire en jeu, je veux trouver une mécanique originale et qui colle à 200% avec le phénomène que je veux gérer. Si je trouve la mécanique, nickel. Si je trouve vraiment pas une mécanique originale et que tout ce qui a été fait jusque-là, c'est ce qui fonctionne le mieux pour ça, là, effectivement, genre. Mais ma contrainte, c'est vraiment ça en premier. Et donc, c'est ce qui fait justement à la fin, comme tu dis, que tu as l'impression que j'ai un jeu chaotique parce que si j'ai par exemple 6 grands phénomènes que j'ai voulu retranscrire dans le jeu, pour chacun de ces 6 phénomènes, je vais avoir cherché une mécanique novatrice. Et donc tu vas te trouver avec un jeu qui t'a l'air super riche parce que tu as 6 nouvelles choses dedans. Et pour te raconter la vraie histoire sur Archipel, il a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, la première proto que j'avais fait, les joueurs s'étaient éclatés, mais la partie c'était une nuit. Et d'habitude, on me dit « Ouais, mais Chris, non, c'est pas un jeu que t'as, mais c'est 4 en 1. » Là, non, c'était pas ça qu'il me disait. Il me disait « T'as pas un jeu, là, t'en as 13 en 1. » Donc, l'année d'après, grand coup de serpe, tronçonneuse, j'ai été découpé à fond là-dedans et j'en ai rendu un jeu beaucoup plus abordable. Mais sinon, il ne l'était pas... Il était, c'est un vrai, c'était un jeu que pour les gros geeks qui font du 1830, on va dire. Voilà, que ça.
Ah, c'est toi qui...
Ben, il fallait que je lui montre.
On en avait...
C'est bon, la radio, on a vu les temps. D'accord.
On en avait parlé déjà l'année passée avec Earth Reborn, il y avait 12 nouvelles mécaniques dedans.
Ouais.
Est-ce que c'est le design d'Earth Reborn qui t'a permis justement de garder cette gymnastique de l'esprit pour configurer et pour permettre Archipel, c'est-à-dire l'agencement de toutes ces choses qui se passent dans le jeu?
Non, je ne me suis pas du tout inspiré d'Earth Reborn pour le faire et j'y ai pas jamais pensé. Pour te dire la vérité, la comparaison, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec Earth Reborn, elle est arrivée très récemment, donc presque 3... À force de là faire des parties et de mixer tout ça, maintenant que c'est bien rodé, de le voir vraiment tourner comme il est, je change plus grand chose ces derniers temps. Je me suis rendu compte lors de certaines parties, avec les joueurs qui sourient et tout à la fin, on dit putain, mais cette partie, c'est passé des trucs trop alambiqués, trop racontant des histoires. À plusieurs parties, à la fin, je me suis dit putain, mais là, franchement, on a vécu un truc, il y a des colonisations totalement différentes. On se fait kicker out par les autochtones qui nous aiment pas. Voilà. Et là, à la fin de ce truc-là, je me suis dit, c'est vrai que chaque partie qu'on fait, ça génère un scénario différent. Et là, j'ai pensé au générateur de Earth Reborn. J'ai reproduit un peu cette chose dedans. Pas autant et pas dans la même manière, mais j'ai reproduit dedans.
C'était pas intentionnel.
Voilà, c'était pas intentionné. Donc ça, je l'ai vu très récemment. Par contre, dans la source d'inspiration, je pense qu'une des trucs principales, au moment où j'ai commencé à faire Archipel, je joue très peu de jeux vidéo. Mais j'avais fait le tutoriel et une demi-partie de Civilization 4 de Sid Meier. Et les soirs des révoltés et tout, il y a des gens qui me l'ont dit en jouant, tiens, ça me fait penser un peu à Civilization, le jeu vidéo. Okay. Effectivement, je pense que c'est Civ qui, à ce moment-là, m'a le plus. Qui a allumé la mèche, on va dire, pour Archipel. Surtout que la partie tutoriel que j'ai fait sur Civ, c'était une partie normale. Bon, ça va assez vite, j'ai passé 4-5 heures, mais la première partie que j'ai lancée derrière, j'avais choisi un monde fait que d'eau, il y avait plein d'îles et tout, et en fait, en gros, j'étais un peu dans un archipel où tu galères bien pour aller d'une zone à l'autre. Je pense que c'est plutôt ma partie Waterworld de Civilization 4 qui a allumé la mèche pour Archipel. Voilà.
Alors, Archipel, c'est le nom définitif?
Je crois, ça peut être Archipelago ou quoi, ça dépend si c'est pris. J'ai regardé, je crois qu'Archipel n'est pas pris.
Là, on est
sur le définitif. Ouais.
Mais là, on est sur le prototype, ça veut dire qu'il sortira quand?
Alors, on le veut en 2012. Et on va attaquer tous les graphismes et tout là, incessamment sous peu. Donc au plus loin, il sera là pour SN de l'année prochaine, au plus loin. Au mieux, on l'aura avant, peut-être au courant de l'été ou quelque chose comme ça. Mais pour une certitude, il sera à SN l'année prochaine, ça c'est sûr.
L'année passée, avec Earth Reborn, tu avais fait un compromis avec, c'était quoi, FFG, je crois,
Z-Man.
Avec Z-Man, pour justement faire des boîtes qui n'étaient pas trop chères en début, etc. Est-ce qu'on est dans cette même mécanique, sachant que la boîte va être très lourde cette fois-ci aussi?
Ah ben là, oui, c'est pareil. Bon, là, ça va être Asmodée qui va le distribuer, et comme c'est un jeu quand même vachement à l'allemande, enfin, c'est un jeu qui touche tellement un peu à tous les univers que c'est un jeu international, celui-là, beaucoup plus que l'été Earth Reborn, je pense. Earth Reborn, c'est moins allemand que ça.
Donc il faut du consortium là-dessus.
Voilà, et enfin consortium. Il y a de grandes chances pour qu'Asmodée. Pour l'instant, on n'a pas de partenariat. J'ai des touches et bien avancées, et même, pas certaines, c'est pas signé et tout, mais on a par contre un deal pour probablement le sortir sur iPad ou sur jeux vidéo quasiment en même temps, quoi. Et il est même possible qu'on fasse les graphismes dédiés au plateau et que ce sera exactement les mêmes pour le truc et que ça soit fait avec une boîte de jeux vidéo. Bon, ça c'est pas sûr, mais c'est bien en manché. Ils ont un proto, ils ont joué avec et ils voient bien le potentiel en jeu vidéo. Il n'y a pas besoin de faire d'IA. Ton ennemi, c'est la révolte. Et quand je joue solo, ma version solo, j'ai vraiment l'impression de jouer un jeu vidéo. Et encore hier, des gens qui jouaient m'ont dit c'est marrant, toutes les mécaniques, tous les trucs, on a l'impression que ça serait super fluide géré par un ordinateur et tout ça. Bon, ça, c'est plus mon esprit informaticien d'antan, quoi, qui génère des choses comme ça, quoi.
Bravo Christophe, merci.
Ben, y a pas de quoi mon grand.
À bientôt.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.